Rome définit la vision. Numéro 1. Une interprétation privée.
Et dans ces temps-là,
beaucoup se dresseront contre le roi du Sud, et même les brigands de ton peuple s'élèveront pour établir la vision. Mais ils tomberont. Daniel 11, 14.
Le mot « doctrine », dans le contexte du christianisme, représente les vérités établies de la Bible. Diverses organisations se disant chrétiennes possèdent des ensembles différents de doctrines qu'elles qualifient de bibliques. Mais il n'y a qu'une seule vérité. La distinction entre vérité absolue et pluralisme dépasse le cadre de notre propos à ce stade.
Palette lui dit donc, « Es-tu donc roi ?»
Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né pour cela, et c'est pour cela que je suis venu dans le monde, afin de rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Et après avoir dit cela, il sortit de nouveau vers les Juifs et leur dit, « Je ne trouve en lui aucune faute. » Jean 18, 37, 38.
La vérité est la parole de Dieu. Elle est sa voix et c'est le Christ lui-même.
Nous devrions savoir par nous-mêmes ce qui constitue le christianisme, ce qu'est la vérité, quelle est la foi que nous avons reçue, quelles sont les règles bibliques, les règles qui nous ont été données par la plus haute autorité. Nombreux sont ceux qui croient sans raison sur laquelle fonder leur foi, sans preuve suffisante quant à la vérité de la chose en question. Si une idée est présentée qui s'harmonise avec leurs opinions préconçues, ils sont tout prêts à l'accepter. Ils ne raisonnent pas de la cause à l'effet. Leur foi n'a pas de véritable fondement. Et au temps de l'épreuve, ils se rendront compte qu'ils ont bâti sur le sable.
Celui qui se contente de sa propre connaissance actuelle et imparfaite des Écritures, pensant que cela suffit pour son salut, se berce d'une illusion fatale. Beaucoup ne sont pas pleinement pourvus d'arguments scripturaires, afin de pouvoir discerner l'erreur et condamner toute la tradition et la superstition qui ont été imposées comme la vérité. Satan a introduit ses propres idées dans le culte rendu à Dieu, afin de corrompre la simplicité de l'Évangile du Christ. Un grand nombre qui prétendent croire à la vérité présente ne savent pas ce qui constitue la foi qui a été une fois transmise aux saints, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ils pensent défendre les bornes anciennes, mais ils sont tièdes et indifférents. Ils ne savent pas ce que c'est que d'intégrer à leur expérience et de posséder la véritable vertu de l'amour et de la foi. Ils ne sont pas des étudiants assidus de la Bible, mais sont paresseux et inattentifs. Lorsque des divergences d'opinion surgissent au sujet des passages de l'Écriture, ceux qui n'ont pas étudié avec un but précis et ne sont pas décidés quant à ce qu'ils croient se détournent de la vérité. Nous devrions inculquer à tous la nécessité de rechercher diligemment la vérité divine afin qu'ils sachent qu'ils savent ce qu'est la vérité. Certains se targuent d'une grande connaissance et se sentent satisfaits de leur condition, alors qu'ils n'ont pas plus de zèle pour l'œuvre, pas plus d'amour ardent pour Dieu et pour les âmes pour lesquelles Christ est mort, que s'ils n'avaient jamais connu Dieu. Ils ne lisent pas la Bible afin de s'approprier la moelle et la graisse pour leur propre âme. Ils ne sentent pas que c'est la voix de Dieu qui leur parle. Mais si nous voulons comprendre la voie du salut, si nous voulons voir les rayons du soleil de justice, nous devons étudier les Écritures dans un but, car les promesses et les prophéties de la Bible répandent des rayons clairs de gloire sur le plan divin de la rédemption, ces grandes vérités n'étant pas clairement comprises. Les documents de 1888-403.
Nous sommes tenus de savoir quelles sont ces doctrines et comment présenter, établir et défendre ces vérités.
Il ne nous semble pas possible maintenant que quiconque doive se tenir seul. Mais si Dieu a jamais parlé par moi, le temps viendra où nous serons amenés devant des conciles et devant des milliers de personnes, à cause de son nom, et chacun devra rendre raison de sa foi. Alors viendra la critique la plus sévère sur chaque position qui aurait été prise en faveur de la vérité. Nous devons donc étudier la parole de Dieu, afin de savoir pourquoi nous croyons aux doctrines que nous défendons. Nous devons scruter de manière critique les oracles vivants de Jéhovah. Review and Herald, 18 décembre 1888.
Afin d'être présenté devant des milliers, il est évident que certains des défenseurs de la vérité des derniers jours seront contraints de défendre la vérité par le biais de canaux tels que la télévision ou les diffusions sur Internet. Sinon, comment des milliers pourraient-ils assister aux témoignages rendus par les 144 000? Les doctrines que nous prônons définissent le fondement de notre foi.
Les membres de l'Église seront individuellement mis à l'épreuve et éprouvés. Ils se trouveront dans des circonstances où ils seront contraints de rendre témoignage à la vérité. Beaucoup seront appelés à parler devant des conseils et des tribunaux de justice, peut-être séparément et seuls. Ils ont négligé d'acquérir l'expérience qui les aurait aidés dans cette situation d'urgence,
et leurs âmes sont accablées de remords pour les occasions manquées et les privilèges négligés. Témoignage, volume 5, 463.
La parole de Dieu ne faillit jamais. C'est pourquoi, si nous devons être comptés parmi les 144 000, nous devons savoir ce qu'il faut croire sur la base de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Avant que n'arrive le temps de l'épreuve, où le peuple de Dieu sera contraint d'expliquer les doctrines auxquelles il croit, Dieu permet que des erreurs soient introduites afin de contraindre le peuple de Dieu à étudier sa parole de manière critique.
Le fait qu'il n'y ait ni controverse ni agitation parmi le peuple de Dieu ne doit pas être considéré comme une preuve décisive qu'il s'attache fermement à la saine doctrine. Il y a lieu de craindre qu'il ne distingue pas clairement entre la vérité et l'erreur. Lorsque l'étude des Écritures ne suscite aucune question nouvelle, lorsqu'aucune divergence d'opinion ne survient pour pousser les hommes à chercher dans la Bible par eux-mêmes, afin de s'assurer qu'ils possèdent la vérité, il y en aura beaucoup, aujourd'hui comme aux temps anciens, qui s'attacheront à la tradition et adoreront ce qu'ils ne connaissent pas. Il m'a été montré que beaucoup de ceux qui professent connaître la vérité présente ne savent pas ce qu'ils croient. Ils ne comprennent pas les preuves de leur foi. Ils n'ont pas une juste appréciation de l'œuvre pour le temps présent. Quand viendra le temps de l'épreuve, certains hommes qui aujourd'hui prêchent aux autres découvriront, en examinant les positions qu'ils défendent, qu'il est bien des choses pour lesquelles ils ne peuvent fournir aucune raison satisfaisante. Avant d'être ainsi mis à l'épreuve, ils ne se rendaient pas compte de leur grande ignorance. Et il y a beaucoup dans l'Église qui tiennent pour acquis qu'ils comprennent ce qu'ils croient. Mais, tant qu'une controverse ne surgit pas, ils ne connaissent pas leur propre faiblesse. Lorsqu'ils seront séparés de ceux qui partagent leur foi et contraints de se tenir seuls pour expliquer leurs croyances, ils seront surpris de voir à quel point sont confuses leurs idées sur ce qu'ils avaient accepté comme la vérité. Il est certain qu'il y a eu parmi nous un éloignement du Dieu vivant et que l'on s'est tourné vers les hommes, mettant la sagesse humaine à la place de la sagesse divine. Dieu réveillera son peuple. Si d'autres moyens échouent, des hérésies se glisseront parmi eux, qui les passeront au crible, séparant la balle du blé. Le Seigneur appelle tous ceux qui croient à sa parole à se réveiller de leur sommeil. Une lumière précieuse nous est parvenue, appropriée à ce temps. C'est la vérité biblique qui montre les périls qui sont à nos portes. Cette lumière devrait nous conduire à une étude diligente des Écritures et à un examen des plus rigoureux des positions que nous soutenons. Dieu veut que tous les aspects et les positions de la vérité soient scrutés à fond et avec persévérance, dans la prière et le jeûne. Les croyants ne doivent pas se contenter de suppositions et d'idées mal définies de ce qui constitue la vérité. Leur foi doit être solidement fondée sur la parole de Dieu, afin que, lorsque viendra le temps de l'épreuve et qu'ils seront amenés devant des tribunaux pour répondre de leur foi, ils puissent rendre raison de l'espérance qui est en eux, avec douceur et crainte.
Agitez, agitez, agitez ! Les sujets que nous présentons au monde doivent être pour nous une réalité vivante. Il est important qu'en défendant les doctrines que nous considérons comme des articles de foi fondamentaux, nous ne nous permettions jamais d'employer des arguments qui ne soient pas entièrement solides. De tels arguments peuvent suffire à réduire un adversaire au silence, mais ils n'honorent pas la vérité. Nous devrions présenter des arguments solides qui non seulement réduiront nos adversaires au silence, mais supporteront l'examen le plus rigoureux et le plus approfondi. Chez ceux qui se sont formés à l'art du débat, il y a un grand danger qu'ils ne manient pas la parole de Dieu avec équité. En rencontrant un adversaire, nous devrions nous efforcer avec sérieux de présenter les sujets de manière à éveiller la conviction dans son esprit, plutôt que de chercher simplement à donner confiance aux croyants.
Quel que soit le progrès intellectuel de l'homme, qu'il ne s'imagine pas un instant qu'il n'est pas nécessaire de rechercher de manière approfondie et continue, dans les Écritures, une lumière plus grande. En tant que peuple, nous sommes appelés individuellement à être des étudiants de la prophétie. Nous devons veiller avec ardeur afin de discerner tout rayon de lumière que Dieu nous présentera. Nous devons saisir les premières lueurs de la vérité et, par une étude accompagnée de prières, une lumière plus claire peut être obtenue, qui pourra être présentée aux autres. Témoignage, volume 5, 708.
Les étudiants de la prophétie, qui, en fin de compte, constitueront les 144 000, seront éprouvés et approuvés individuellement avant leur confrontation avec les pouvoirs terrestres qui provoqueront la crise imminente de la loi du dimanche et la persécution. Les fidèles seront d'abord réveillés par Dieu. Les vierges endormies seront réveillées du sommeil dans lequel elles sont tombées durant le temps d'attente. Si elles ne se réveillent pas par le message que Dieu a présenté à travers les articles qui ont été diffusés depuis juillet 2023, alors Dieu permettra que des hérésies entrent parmi elles, ce qui achèvera la séparation du blé et de l'ivraie, par un processus de criblage. Nous sommes maintenant dans ce processus de criblage. Il existe trois options pour ceux qui ont suivi la controverse sur l'identification correcte de la Rome moderne. La première est que les États-Unis sont la Rome moderne. La seconde est que le pouvoir papal est la Rome moderne. Et la troisième est que les deux positions précédentes sont incorrectes et qu'une autre puissance est représentée par les brigands du peuple de Daniel, qui s'élèvent, tombent et établissent la vision au verset 14 du chapitre 11 de Daniel. Je soutiens que le désaccord portant sur la question de savoir si Rome moderne désigne la puissance papale ou les États-Unis a été autorisé à entrer dans ce mouvement dans le but de contraindre son peuple à étudier sa parole prophétique. Dieu a suscité cette controverse comme manifestation de sa miséricorde. Je soutiens que ce désaccord vise davantage à préparer son peuple à la crise à venir qu'à simplement identifier qui a raison et qui a tort au sujet de Rome moderne. Ce désaccord a été permis et conçu par Dieu pour montrer, à quiconque souhaite le voir, que sa propre compréhension de sa parole prophétique est incomplète ou erronée. La controverse est donc une preuve de la miséricorde de Dieu.
La controverse ne concerne pas seulement l'identification de la puissance représentée par les pillards de ton peuple, mais aussi la question de savoir si la méthodologie, ligne sur ligne, que les deux parties de la controverse professent, défendre est correctement appliquée. Les règles prophétiques associées à la méthodologie, ligne sur ligne, incluent des principes prophétiques particuliers qui feront partie du processus de séparation du blé et de l'ivraie. Trois éléments de la méthodologie, ligne sur ligne, que je soutiens être mal compris dans la controverse actuelle sont le Christ en tant que vérité, le Christ en tant qu'alpha et oméga, et une triple application de la prophétie. En fin de compte, on constatera que ceux qui s'en tiennent à une compréhension erronée du verset 14 du chapitre 11 de Daniel fondent leur position doctrinale sur une interprétation particulière.
Nous avons aussi la parole prophétique rendue plus certaine, et vous faites bien d'y prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour se lève et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant avant tout que nulle prophétie de l'Écriture ne relève d'une interprétation privée. Car la prophétie n'est jamais venue de la volonté de l'homme, mais des hommes saints de Dieu ont parlé, poussés par le Saint-Esprit. 2 Pierre 1, 19-21.
Dans la controverse autour du verset 14, un exemple de ce que je comprends comme étant une interprétation privée se trouve dans la grande controverse.
Alors que le sabbat est devenu le point particulier de controverse dans toute la chrétienté et que les autorités religieuses et séculières se sont unies pour imposer l'observance du dimanche, le refus persistant d'une petite minorité de se plier à la demande populaire fera d'eux des objets d'exécration universelle. On soutiendra que les quelques-uns qui s'opposent à une institution de l'Église et à une loi de l'État ne devraient pas s'être tolérés, qu'il vaut mieux qu'ils souffrent plutôt que des nations entières soient plongées dans la confusion et l'anarchie. Le même argument, il y a bien des siècles, fut avancé contre le Christ par les chefs du peuple. « Il nous est avantageux, dit le rusé Caïphe, qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. » Jean 11, 50. Cet argument paraîtra concluant, et un décret sera finalement promulgué contre ceux qui sanctifient le sabbat du quatrième commandement, les dénonçant comme méritant les châtiments les plus sévères et accordant au peuple la liberté, après un certain délai, de les mettre à mort. Le romanisme dans l'Ancien Monde et le protestantisme apostat dans le Nouveau suivront une démarche semblable, à l'égard de ceux qui honorent tous les préceptes divins. La grande controverse, Séditions.
La chrétienté désigne la communauté mondiale des chrétiens, ou l'ensemble des pays et des cultures à majorité chrétienne. Le terme est souvent utilisé pour désigner les parties du monde où le christianisme est la religion dominante et où il a fortement influencé la culture, les lois et les normes sociales. La chrétienté englobe l'ampleur mondiale du christianisme, tant par ses fidèles que par son impact culturel et son importance historique. Sans supprimer les répétitions qui existent dans le CD-ROM d'Ellen White, le mot « Christendom » apparaît 176 fois, géographiquement. Sir White indique que, de manière générale, la chrétienté représente l'Europe et les Amériques. Dans le contexte de Sir White, l'Europe est identifiée comme l'Ancien Monde et les Amériques comme le Nouveau Monde.
Mais la bête aux cornes semblables à celle d'un agneau fut vue sortant de la terre. Au lieu de renverser d'autres puissances pour s'établir, la nation ainsi représentée devait surgir sur un territoire auparavant inoccupé et se développer progressivement et pacifiquement. Elle ne pouvait donc pas naître au milieu des nations nombreuses et en lutte de l'Ancien Monde, cette mer turbulente de peuples et foules et nations et langues. Il faut la chercher sur le continent occidental. Quelle nation du Nouveau Monde, en 1798, montait en puissance, promettait force et grandeur et attirait l'attention du monde? L'application du symbole ne laisse place à aucun doute.
une nation et une seule, répond aux critères de cette prophétie. Elle désigne sans équivoque les États-Unis d'Amérique. La grande controverse, 441.
La dernière phrase du paragraphe que nous examinons a été utilisée pour suggérer que l'expression « le romanisme dans l'Ancien Monde et le Saint-Apostatisme apostat dans le Nouveau » identifie le romanisme de l'Ancien Monde comme la papauté durant les ténèbres du Moyen-Âge et les États-Unis, le protestantisme apostat, comme la Rome moderne, ce que traduit l'expression « protestantisme apostat dans le Nouveau ». L'ancien est défini comme l'histoire passée et le nouveau est défini comme l'histoire moderne ou actuelle. Cette application dénature la compréhension établie de Sir White tant de la chrétienté que de l'ancien et du nouveau monde. Ceux qui appliquent la phrase en termes d'histoire passée et future y voient une interprétation privée en contradiction directe avec le sens voulu par Sir White. On affirme que l'ancien monde représente l'histoire passée et que le nouveau représente l'histoire moderne ou actuelle, nouveau. Le passage dit « poursuivrons ». Le romanisme et le protestantisme apostat poursuivront une ligne de conduite similaire à l'égard de ceux qui honorent tous les préceptes divins. Le vieux monde, dans le passage, est l'Europe, et le nouveau monde désigne les Amériques. Sir White enseigne que le monde entier sera confronté à l'épreuve de la loi du dimanche, et que le romanisme prendra la tête des persécutions en Europe, tandis que le protestantisme apostat prendra la tête des persécutions dans les Amériques. Les Amériques et l'Europe sont ce qu'on appelle la chrétienté. Le romanisme et le protestantisme apostat poursuivront une ligne de conduite similaire à l'égard de ceux qui honorent tous les préceptes divins.
Will pursue, identify an action future that is de percents. It is grammatically impossible to suggere que le romanism de l'ancien monde et le pouvoir popo aille, des aides sombre. La persécution exerce par les de percents est au futur. Expression will pursue signifie suivre ou poursuivre quelque chose avec l'intention de l'accomplir ou de l'atteindre. Elle implique une action future où un individu ou un groupe s'engage à rechercher activement un but ou un objectif.
Expression peut s'appliquer dans divers contextes. Elle poursuivra une carrière en médecine, ce qui signifie qu'elle prévoit de travailler pour devenir une professionnelle de santé. Il préparera un diplôme en ingénierie, ce qui indique qu'il a l'intention d'étudier l'ingénierie dans un établissement d'enseignement supérieur. L'équipe poursuivra le projet jusqu'à son achèvement, ce qui suggère que l'équipe continuera à travailler sur le projet jusqu'à ce qu'il soit terminé. Ils engageront une action en justice contre l'entreprise, ce qui signifie qu'ils ont l'intention d'entreprendre des démarches juridiques pour traiter un grief ou obtenir justice. Globalement, « will pursue » implique de la détermination, de l'engagement et une intention claire d'atteindre un objectif ou un résultat précis à l'avenir. L'interprétation privée utilisée pour enseigner que le romanisme du vieux monde appartient au passé est ensuite employée pour étayer une application erronée d'une triple application de la prophétie. Elle soutient que la triple application de Rome représente Rome païenne, suivie de Rome papale, puis les États-Unis comme la troisième des trois Roms. Une application erronée très similaire a été employée peu après le 11 septembre 2001, lorsqu'un groupe s'est séparé du mouvement au sujet du livre du Joël. La controverse a alors commencé lors d'une réunion de camp au Canada, où la triplication des trois malheurs a été intégrée au livre de Joël pour enseigner que l'islam du troisième malheur était la nation qui s'est levée contre le pays au verset 6 du chapitre 1. Cette nation est la Rome papale, mais on a introduit une interprétation privée affirmant que cette nation était d'islam. La triplication des trois malheurs avait établi l'islam comme la puissance du 11 septembre 2001. Et la nouvelle interprétation privée insistait sur le fait que la puissance papale du chapitre 1 de Joël était en réalité l'islam. Une interprétation privée qui rejetait l'identification correcte de la puissance papale dans le livre de Joël a été étayée par une application incorrecte des trois malheurs. On introduit maintenant une interprétation privée qui écarte la puissance papale au profit des États-Unis.
Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui se fait est ce qui se fera. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Y a-t-il quelque chose dont on puisse dire « Voyez, c'est nouveau » ? Cela existait déjà autrefois, avant nous. Ecclésiaste 1, 9, 10.
Les controverses des derniers jours comprennent la répétition d'anciennes controverses, et le chapitre 11 de Daniel présente la controverse d'Uriah Smith, qui a imposé son interprétation privée au symbole du roi du Nord. Ce faisant, il a élaboré une compréhension du chapitre 11 de Daniel qui n'a produit que des ténèbres. En ces derniers jours, les controverses qui se répètent mettent particulièrement en évidence les fruits de l'application d'interprétations privées à la vérité établie. C'est ce que Smith a fait dans son livre « Daniel et l'Apocalypse ». C'est ce qui a été fait dans la controverse autour du livre de Joël. Et les mêmes mécanismes sont employés lorsqu'un paragraphe de The Great Controversy évite la définition, dans le monde et dans les écrits d'Ellen White, de ce que représente la chrétienté, tout en rejetant les règles élémentaires de grammaire selon lesquelles l'expression « will pursue » désigne un événement futur. À partir de ce point de référence, l'idée erronée selon laquelle le vieux monde serait l'histoire de la puissance papale de 1538 jusqu'en 1798 est ensuite utilisée pour contester la compréhension établie de ce qu'est une application triple de la prophétie.
Tout ce que Dieu a, dans l'histoire prophétique, annoncé devoir s'accomplir dans le passé, s'est accompli, et tout ce qui est encore à venir dans l'ordre qui est le sien, s'accomplira. Daniel, le prophète de Dieu, se tient à sa place. Jean se tient à sa place. Dans l'Apocalypse, le lion de la tribu de Juda a ouvert à ceux qui étudient la prophétie le livre de Daniel, et ainsi Daniel se tient à sa place. Il rend son témoignage, ce que le Seigneur lui a révélé en vision au sujet des grands et solennels événements que nous devons connaître alors que nous nous tenons sur le seuil même de leur accomplissement. Dans l'histoire et la prophétie, la parole de Dieu retrace la lutte prolongée entre la vérité et l'erreur. Cette lutte est encore en cours. Ce qui a été se répétera. Les anciennes controverses seront ravivées et de nouvelles théories ne cesseront de surgir. Mais le peuple de Dieu, qui par sa foi et par l'accomplissement des prophéties, a joué un rôle dans la proclamation des messages du premier, du deuxième et du troisième ange, sait où il se tient. Il possède une expérience plus précieuse que leur fin. Il doit demeurer ferme comme un rocher, gardant jusqu'à la fin le commencement de son assurance. Message choisi, livre 2, 109.
Il est facile de démontrer que Sir White identifie le commencement de leur confiance de Paul comme les vérités fondamentales de l'adventisme. Les Millerites enseignaient que les voleurs de ton peuple étaient la puissance papale et depuis 1989, le mouvement des 144 000 a à maintes reprises reconnu la même compréhension du symbole que les Millerites. Il existe maintenant une nouvelle théorie quant à l'identité des voleurs de ton peuple, et elle a ravivé une ancienne controverse en ce sens qu'elle utilise une identification erronée d'un symbole prophétique établi pour construire un modèle prophétique édifié sur le sable. Qu'il s'agisse de l'interprétation privée de Smith, de l'application erronée de la nation dans Joël chapitre 1 ou de l'identification des États-Unis comme Rome moderne, ces trois erreurs s'attaquent à la compréhension correcte de la Rome papale dans les derniers jours, et ce faisant, elles s'en prennent au symbole qui établit la vision prophétique déterminant si le peuple de Dieu périt ou vit. À l'avenir, le romanisme en Europe et le protestantisme apostat dans les Amériques poursuivront la persécution des observateurs du sabbat, comme cela a été fait tout au long de l'histoire sacrée.
Dieu réveillera son peuple. Si d'autres moyens échouent, des hérésies s'introduiront parmi eux, qui les cribleront, séparant le bon grain de l'ivraie. Le Seigneur appelle tous ceux qui croient à sa parole à sortir de leur sommeil. Une lumière précieuse nous est parvenue, appropriée pour ce temps. C'est la vérité biblique, montrant les périls qui nous menacent de près. Cette lumière devrait nous conduire à une étude assidue des Écritures et à un examen des plus rigoureux des positions que nous défendons. Dieu veut que toutes les implications et positions de la vérité soient examinées à fond et avec persévérance, dans la prière et le jeûne. Les croyants ne doivent pas se reposer sur des suppositions et des idées mal définies de ce qui constitue la vérité. Les ouvriers de l'Évangile, 299.
Nous poursuivrons ces réflexions dans le prochain article.